Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
Là-haut sur la colline.
J'accueille maintenant Éric Montigny et Pascal Mayotte, les auteurs de ce livre, La conquête du pouvoir, titre énigmatique, mais au fond, c'est comment une troisième voie politique s'est imposée au Québec. C'est un livre, un récit, hein, haletant quand même. Moi, j'ai bien aimé. Je vous présente Pascal, donc deux conseillers politiques. Pascal, plutôt au départ au Parti québécois, mais aussi chez François Legault, très récemment. On dit même que Pascal est parti avec la boussole de François Legault parce qu'il l'a quitté avant les dernières élections. On en reparlera. Éric Montigny, évidemment, qui est co-auteur de ce livre, qui est professeur à l'Université Laval en sciences politiques, mais qui était de la naissance de la DQ jusqu'à quand, Éric?
Jusqu'au départ de Mario.
Ah, donc en 2008, exactement.
Avec une petite pause pour faire mon doctorat entre deux élections.
C'est bon. Un livre haletant. On va parler de la naissance de l'ADQ d'abord. Ce qu'on oublie souvent, parce qu'on a le souvenir du dernier ADQ, c'est le nationalisme qui a mis au monde l'ADQ. Parle-nous-en un peu, parce que c'est ce qu'on redécouvre, je pense, dans ce livre.
Absolument, Antoine. Le récit débute avec l'échec de l'accord du lac Meech. Hein.
Ben oui.
Moi, je suis un enfant de Meech, Pascal aussi. On a été marqué comme génération par les grandes conférences constitutionnelles, les grandes manœuvres constitutionnelles et les échecs associés à cette volonté de réparer un peu l'erreur de 1982 où le Québec a été exclu de la Constitution canadienne, où il n'a pas été signataire de la Constitution canadienne. Donc, ce récit-là s'amorce effectivement par des discussions, des débats à la suite de l'accord du lac Meech, à l'intérieur même du Parti libéral du Québec.
Où parce il y a une que vous étiez des libéraux, c'est ça?
Absolument.
L'ADQ est né de la cuisse du Parti libéral.
Absolument. Moi, j'étais à l'époque jeune militant, mais j'étais aussi jeune recherchiste au cabinet de M. Bourassa. Donc, j'ai vécu tout cet épisode-là de l'échec de l'accord du lac Meech de l'intérieur, à la fois de la commission jeunesse, mais aussi du cabinet de M. Bourassa. Et ça a été des moments très, très intenses. Et peut-être pour ça que tu dis que c'est haletant dans le livre, c'est effectivement une période effervescente de l'histoire du Québec où on avait l'impression d'écrire l'histoire un peu à chaque jour. Et c'est fort un rebondissement, là, cette période-là de l'histoire.
Oui, absolument. Mais j'en reviens pas que vous ayez quitté le Parti libéral. Tu le dis, Éric, tu as travaillé au cabinet de Robert Bourassa. Qu'est-ce qui vous a donné, je dirais... l'audace de quitter comme ça. Tu nous l'expliques, tu nous le fais comprendre, mais je ne reviens pas. Là, surtout quand on essaie de convaincre Mario Dumont en lui disant « Ah, tu as un bel avenir au sein du parti, là, ça ne serait pas une bonne idée de quitter. » Qu'est-ce qui a été le déclencheur?
On était jeunes et fous et rebelles. Je pense toujours un peu rebelle, un peu fou, mais moins jeune. Mais blague à part, c'est une question de conviction et de principe. Hein. Faut comprendre le contexte. L'échec de l'accord du lac Meech, c'était une volonté de réconciliation. Puis là, on parle beaucoup avec le décès de M. Mulroney de cette période-là. C'était une volonté de réconciliation. Et cet échec-là a amené le Québec à développer avec la commission Bélanger-Campeau, avec les consultations au sein du Parti libéral, une réponse à cet échec-là qui allait dans le sens d'une plus grande autonomie du Québec. Et ça, c'est incarné par le rapport à l'air. Donc, à l'intérieur même des instances du Parti libéral du Québec, ce rapport-là a été adopté massivement. Il y avait des dissidents. Effectivement, M. Ryan était contre. Il y a eu des débats. Et c'est devenu le programme officiel du parti. Et les jeunes composaient, ils composent toujours au sein du Parti libéral, le tiers des voix. Et il y avait un poids réel des jeunes dans le parti. Et quand est arrivé, à l'été 92, un accord, parce que toute la démarche prévoyait un référendum à l'automne, c'était la loi 150, référendum dans la loi 150 adopté par les libéraux qui prévoyait un référendum sur la souveraineté. Hein, qui a été amendé pour faire plutôt porter le référendum sur une entente de Charlottetown qui, aux yeux même des gens qui militaient pour le rapport à l'air, n'était pas à la hauteur. Ce qui fait qu'on a même fondé le réseau des libéraux pour le non. On se disait toujours libéraux à l'époque.
On ouais, a fait parce que la DQ est créée après. Là.
Absolument.
Vous
donc,
le montrez bien.
On crée le réseau des libéraux pour le nom, avec un logo même du Parti libéral. On fait campagne dans le parapluie du nom à l'entente de Charlottetown. Et c'est après qu'on quitte officiellement le Parti libéral, parce qu'il y a des gens qui étaient toujours sur l'exécutif. Là. Mario Dumont, Marie-Claude Barrette, par exemple, était sur l'exécutif du Parti libéral. Et il y aura vraiment un tribunal après le référendum.
Ah oui, hein?
Où on veut expédier, où on veut, si on veut, chasser ces rebelles du parti. Donc, c'est l'exode de l'aile nationaliste du Parti libéral.
C'est ça.
Puis après, ben, on voit ce que le Parti libéral devient, mais c'est un Parti libéral qui a plus cette aile nationaliste comme elle l'avait auparavant.
Vous vous mettez pas enceinte dans ce livre-là, c'est-à-dire que vous racontez l'histoire, et donc, à l'époque, Pascal Mayotte, t'es où et qu'est-ce que tu fais?
Moi, je suis un militant du Parti québécois. Alors, je regarde ça de loin, cette gang de jeunes qui quittent le parti politique est au pouvoir. Quand même, c'est pas banal. Là. Pour fonder leur propre parti, on se demande un peu à quoi ça rime, ce groupuscule. Là, puis on est à peu près certain que ça ira nulle part parce que il n'y a pas d'option là, autre que celle de la souveraineté pour nous versus c'est le fédéralisme. Alors, on semble dans un bipartisme perpétuel au Québec.
Mm-hmm. C'est ça. Il y a eu des illustres prédécesseurs à cette troisième voie de la DQ. Il y a aussi un autre parti qui est né de la cuisse du Parti libéral. On peut dire que c'est le Parti québécois.
Absolument.
René Lévesque a quitté le Parti libéral, même s'il est allé chercher des morceaux d'autres partis. Puis il y a l'Action libérale nationale dans le temps. Est-ce que c'est un vieux rêve, ça, la troisième voie, comme vous l'appelez, parce qu'on va reparler, on va parler de la CAQ un peu plus tard, Pascal Mayotte?
C'est une aspiration qui est profonde dans l'histoire du Québec. L'autonomisme, là, c'est pas Jean Lair qui l'a inventé ou Mario Dumont. Mm-hmm. Il y avait aussi le mouvement d'affirmation nationale au Parti québécois qui était porté par Pierre-Marc Johnson. On peut relier la troisième voie à cette mouvance. D'ailleurs, il y a une filière péquiste, un fait méconnu, hein, qui a participé à la fondation de la DQ.
Je sais, j'ai lu ça, puis j'avais oublié ce fait-là, qu'il y a des Johnsonistes qui ont joint les gens, les libéraux comme Éric Montigny et Mario Dumont
et qui ont
pour créer la DQ. Donc, il y a des sources multiples, il y a toutes sortes d'ADN dans cette ADQ naissante.
Oui, absolument, absolument, absolument. Puis il y a des gens qui n'ont jamais fait de politique aussi. Donc, on le relate dans le livre. Au congrès de fondation, il y a des gens qui voient les nouvelles à la télé puis qui débarquent puis qui vont venir s'impliquer parce qu'il y avait sentait le besoin d'avoir une nouvelle option puis de s'engager. Ce congrès de fondation là qui fête ses 30 ans aujourd'hui, ben ça avait été un succès contre toute attente là. À quelques mois d'une élection générale, hein,
oui.
On était pressé par le temps. Et petite anecdote, il y avait un débat sur comment les gens du parti allaient s'appeler.
Oui.
Ça allait être quoi le nom? Finalement,
grâce à Normand Delisle, finalement.
Absolument, parce que Normand Girard, lui, voulait qu'on s'appelle les pas de cul. Je peux vous dire qu'on n'aimait pas beaucoup ça. C'est le journaliste, Normand Delisle, un journaliste aussi aguerri, qui, finalement, avait tenté le mot adéquiste. Et quand Jean Allaire avait vu ce nom-là, il a dit tout de suite, ben, c'est ce qu'on prend. Puis il avait commencé le congrès en disant, chers amis adéquistes, et c'est resté. Parce que à l'origine, les gens disaient, on voulait se faire appeler les démocrates. Action démocratique du Québec et ça. Peu comme les solidaires ont réussi à se faire appeler les gens de Québec solidaire ont réussi à se faire appeler les solidaires.
Oui, moi je sais que ce soit les QSistes, mais ça marche pas mon truc. Et la coalition Avenir Québec a bien essayé de se faire nommer les coalisés, hein, c'est ça, Pascal Mayotte.
C'est drôle comment les histoires se répètent. Puis il y en a plusieurs comme celle-là à travers le chemin de la DQ puis ensuite celle de la coalition Avenir Québec, parce qu'effectivement. On avait cru, nous, pouvoir se faire appeler les coalisés. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'est pas nous qui avions le pouvoir décisionnel là-dessus, c'était vous, les journalistes. Et ça s'est avéré être les caquistes, finalement. Et on a appris à vivre avec ça, même si au début, ça sonnait un peu bizarre. Le nom s'est normalisé.
Parlez-moi, Pascal Mayotte, parle-moi de la naissance de la coalition Avenir Québec parce que toi, tu étais là dès le départ avec François Legault, même avant la création du parti.
Oui, en fait, moi, j'ai connu François Legault à l'époque où je travaillais pour Lucien Bouchard au cabinet du premier ministre. Là, on est dans un contexte qui suit le référendum de 95, un deuxième nom. Alors, on commence à remettre en question la conception binaire de la politique québécoise, bipolaire. Parce que, bon, un deuxième nom, puis un personnage avec l'ascendant, puis la force puis la puissance de Lucien Bouchard, qui est premier ministre du Québec à ce moment-là, finit lui-même par reconnaître son incapacité à atteindre, à mener le Québec à la terre promise. Alors, François Legault et d'autres ont participé ou ont vu des événements, une séquence, une évolution, puis ont fait le constat d'une impasse de la question référendaire.
Mais 9 ans plus tard, quand il quitte le PQ, c'est en 2009. Et il était très, très souverainiste jusque-là.
Oui, puis moi aussi et plusieurs autres, on a voulu y croire jusqu'au bout. Mais à un moment donné, les faits objectifs se révèlent à nous, qu'on n'y parviendra pas. Et François Legault fait le constat qu'on doit trouver un autre moyen de faire avancer le Québec. Alors, on est un petit groupe là qui allons se réunir chez lui les vendredis en jouant au billard puis en discutant après qu'il ait quitté le Parti québécois et qu'il ait quitté la politique pour de bon. En tout cas, c'était son intention initialement, mais je pense que le goût finalement est revenu assez vite là, d'être dans l'action politique. Et là, germe l'idée de fonder d'abord un mouvement. En fait, initialement, c'était même l'idée de faire un blog pour discuter de la politique. C'est devenu rapidement l'idée d'un mouvement, puis finalement, l'idée d'un parti politique s'est imposée. Et c'est ce qui est la genèse, si on veut, de la coalition Avenir Québec. On est en 2010, là.
Oui, c'est ça. Ouais. 2010, 2011, le mouvement, puis 2012, le parti. Et le parti va rapidement avaler l'ADQ. Et là, il y a une phrase, moi, de Gérard Deltel, parce que j'ai vécu ces événements-là comme journaliste, et que vous rappelez dans le livre, l'ADN de l'ADQ se retrouve dans la CAQ. Est-ce que c'est ton impression, Éric Montigny, que l'ADN de l'ADQ est à la CAQ? Parce que j'entendais Mario Dumont l'autre jour en entrevue avec Richard Martineau, puis il voulait pas se prononcer là-dessus, ou même qu'il semblait nier. Il dit, il y a des personnes qui sont là, mais... Il semblait nier. J'aimerais avoir ton opinion. J'ai pas eu l'impression d'avoir la réponse dans le livre.
Là-dessus, on est plus... Mario, moi, on est peut-être plus nuancé dans le sens que... ou plus divergent sur l'analyse des choses. Il y a un contexte très, très précis de la création de l'ADQ. Contexte économique, générationnel aussi, de la génération X qui a de la misère à se trouver de l'emploi sur le marché du travail.
Oui.
Où plusieurs sujets étaient tabous, hein. Le remboursement de la dette, par exemple, il ne fallait pas parler de ça.
Ah, ça! Vous montrez que c'était au cœur de l'affaire, ben oui.
C'était au cœur de l'affaire, hein. Puis, tu sais, la société québécoise a tellement évolué, on est parti que c'était tabou d'en parler, que là, c'est grave de faire une dette. Donc, le changement, l'évolution de la société québécoise, sur cet enjeu-là, il est majeur. Mm-hmm. L'autre élément, puis ça, je pense que l'ADQ a beaucoup...
Est-ce qu'il y a un bout d'ADN, là? De l'ADQ dans la CAQ, parce que là, ils viennent de nous endetter 11 milliards.
Non, mais c'est tout à fait. Je me rapporte au premier budget là, de la Coalition Avenir Québec, puis on le souligne dans le livre. Dans le premier budget, il y avait une mention d'abord de Mario Dumont et de Lucien Bouchard sur les efforts d'avoir amené ce sujet-là à l'agenda.
Ouais.
Ça, c'était M. Girard qui l'avait fait. Il y a une étude de Luc Godbout qui analysait les précédents budgets, que pour la première fois, il y avait un gouvernement qui avait atteint l'équilibre budgétaire, non seulement l'équilibre budgétaire, mais l'équité intergénérationnelle en termes de dépenses versus de taux d'endettement. Il y avait ça. Maintenant, il y a le dernier budget, puis on sent qu'il y a, même dans certains députés, je pense, une volonté de retourner à l'équilibre budgétaire.
Ton propre frère est député de la CAQ, Éric. Ouais.
Absolument. Donc, j'ai pas entendu ces prises de position sur cet enjeu-là, mais l'autre enjeu, par exemple, c'est un autre exemple, en termes de franc-parler ou tabou brisé. Guy Laforêt, je me souviens très bien de Guy Laforêt, qui était président de l'ADQ, candidat à l'élection 2003.
professeur de sciences politiques.
Professeur de sciences politiques à l'Université
Laval. Un maudit bon prof. Moi, je l'ai eu comme prof en sciences.
Ah oui, absolument. Laval, c'était un spectacle, aller à ses cours. Hein. C'était vraiment 3 heures de pur bonheur. Ben, Guy Laforêt avait fait une déclaration puis une prise de position assez ferme en 2003 sur le décrochage scolaire des garçons.
Ah oui.
Et ça avait créé une polémique incroyable. Et cette polémique-là, ben, il se faisait traiter tous les noms. On ne pouvait pas parler de ça. C'était antiféministe de dire ça. Mm-hmm. Alors que cette semaine ou la semaine dernière, on a annoncé au gouvernement, M. Drainville a annoncé un tableau de bord avec des données sur le décrochage scolaire des garçons, l'opposition officielle aussi.
Un autre bout d'ADN.
Il y a des thématiques qu'on retrouve. On l'oublie aussi, mais il y a, puis même si le temps a passé, ça fait quand même une quinzaine d'années que Mario Dumont n'est plus en politique. Ben, il y a 4 ministres du gouvernement actuel qui ont déjà été candidats de la DQ. Malgré le temps. Donc, le contexte politique change, les enjeux peuvent changer, mais il y a... Puis l'autonomisme, ben, c'est un... qui a pris une autre forme avec la CAQ, que le rapport à l'air, mais qui était un leg de la fusion avec la DQ, c'était dans les conditions de la fusion.
Faut peut-être l'avoir vécu de l'intérieur pour davantage le sentir, cet ADN de la DQ, mais c'était pas du tout envisagé initialement d'avoir une alliance ou encore moins de fusionner avec la DQ à l'origine de la CAQ. Mais les événements ont rapidement imposé cette option-là. Les deux parties pouvaient pas coexister sans se livrer une compétition ensemble, puis ça a ramené à nulle part. Alors, il y a eu cette fusion, puis l'influence de la DQ a toujours été marquante. Pas juste, Éric mentionne là, qu'il y a 4 ministres là, dans le Conseil des ministres qui sont des anciens, mais il y a quand même beaucoup aussi de personnel
conseillers
qui proviennent de la DQ et pas les moindres. Et dans les corridors des congrès, on croise énormément d'anciens ADQistes là, qui occupent des rôles importants dans les instances. Alors, les idées de la DQ sont très présentes à la CAQ. Des dogmes même comme l'allergie aux structures, ce qui découle en fait d'une certaine remise en question du modèle québécois. C'était assez explicite à la DQ, ça l'est peut-être moins à la CAQ, mais c'est très présent, la remise en question du modèle québécois, et ça se traduit dans le présent mandat par plusieurs actions.
Je reviens à votre titre, la conquête du pouvoir, ça n'a pas été facile pour François Legault, ça y a pris 3 élections. Et il y a un point tournant, Pascal, et que vous racontez dans le livre, mais que Pascal, tu m'as déjà raconté, c'est la défaite de Chauveau qui va amener au changement du fameux logo. On part du cacatoès, comme j'ai toujours dit, espèce de truc multicolore bizarre, et on revient à du bleu avec une fleur de lys.
C'est le moment charnière. À ce moment-là, la CAQ, on peut dire, atteint le fond du baril. Puis le parcours avait été assez laborieux du reste là, depuis sa fondation, malgré certains succès d'estime. Une performance honorable pour une première élection de 2012 avec 27% des suffrages puis une vingtaine de députés. En 2014, on frôle la catastrophe, mais de manière miraculeuse à la faveur d'un débat des chefs. François Legault était absolument extraordinaire. La CAQ sauve la mise et retourne à l'Assemblée nationale avec 22 députés. Mais là, c'est la catastrophe. Une élection partielle après le départ de Gérard Deltel. La CAQ perd Chauveau, qui était le château fort, imprenable, jugé imprenable. Et là, après avoir pris quelque temps pour panser ses plaies, François Legault réunit ses proches conseillers pendant l'été, puis là, on met tout sur la table. Là. Comme il dit en blague...
Même là, le nom du parti.
On ferme la shop ou on change de nom. Mais le constat, surtout, c'est qu'il est tanné, nous dit-il, d'être assis sur la clôture. Philippe Couillard le dépeignait avec cette image là, pendant l'élection partielle. Il est assis sur la clôture, il n'y a pas d'option. Puis la CAQ existe depuis 3 ans à ce moment-là. C'est quand même encore un jeune parti qui n'a pas terminé sa maturité programmatique, si vous voulez. Les orientations sont pas encore toutes définies. Ça se fait pas comme en criant ciseaux. Alors, et particulièrement sur la délicate question nationale, il y a des courants. Et là, c'est plus difficile d'aborder cette question-là. Alors, on a préféré la gommer depuis le début de l'existence de la CAQ, la question nationale sous toutes ses formes. Non seulement la question référendaire, mais tout le reste.
Tiens à le dire, là, l'ADQ s'est née à cause d'une scission liée au nationalisme, puis la victoire de François Legault, c'est grâce à un retour au nationalisme. Donc, le nationalisme, on a beau dire les oui et les non, c'est plus important, mais c'est quand même déterminant dans l'histoire de la troisième voie.
Ben, c'est que quand on regarde ce que les Québécois souhaitent en premier, là, ils se situent généralement dans les enquêtes d'opinion lorsque c'est testé. Leur premier choix, c'est plus d'autonomie, mais dans un ensemble canadien, dans le respect.
C'est ça.
D'une composante de l'identité multiple québécoise, mais aussi un lien avec le Canada.
Ouais.
Et bien ça, c'est ce que les Québécois...
Un Québec fort dans un Canada.
Ouais, pour reprendre Yvon Deschamps, qui effectivement avait bien saisi l'humeur des Québécois. Ça,
c'est quoi l'avenir de la troisième voie, là, maintenant? Parce qu'elle a l'air en difficulté, quand on regarde le dernier sondage, surtout. Donc, est-ce que c'est un retour à la polarisation, Pascal Mayotte?
Ben, il y a l'avenir de la CAQ comme gouvernement, l'avenir de la troisième voie en tant que telle. La troisième voie, hein, c'est une option qui se situe entre la souveraineté et le Canada tel quel, ce qu'on appelle le statu quo. Et ça, la place de la troisième voie, elle est acquise au Québec dans le paysage politique, malgré cette semaine, là, certains commentateurs remettent en question. Mais les constats qui sont à l'origine de la CAQ que François Legault a fait pour fonder la coalition, c'est-à-dire que l'option souverainiste était en déclin et que c'était une tendance lourde qui n'allait pas s'inverser là, dans un avenir prévisible, ben, ça n'a pas changé. Fondamentalement, la souveraineté est à quoi, 35%? Mais c'est surtout que c'est pas la priorité. Les jeunes y adhèrent moins.
Ça, c'est clair.
Donc, la carte de la souveraineté, le Québec l'a pas dans son jeu. Le joker de la souveraineté, là. Peut-être que Robert Bourassa l'avait.
François Legault, il y a quand même un passé qui pourrait... Certaines personnes rêvent qu'ils reviennent à ça, même si ses déclarations actuelles sont loin de ça. Écoutez, on est obligé de se laisser, malheureusement. Je rappelle le titre de votre livre, « À la conquête du pouvoir, comment une troisième voie politique s'est imposée au Québec ». On aurait pu en parler une heure. Merci beaucoup, Éric Montigny, donc, qui est professeur à l'Université Laval. Merci beaucoup, Pascal Mayotte, qui est maintenant conseiller chez TAC, qui est un ancien conseiller de Lucien Bouchard et de François Legault. Merci à vous deux. Au plaisir.
Merci. Au revoir.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Bonjour, Guillaume Rousseau.
Bonjour, Antoine Robitaille.
Guillaume Rousseau, vous le connaissez sans doute. C'est un professeur de droit à l'Université de Sherbrooke, mais aussi avocat du mouvement laïque, entre autres. C'est un chercheur. Et d'ailleurs, avec lui, on va parler des juges aujourd'hui. Différentes controverses sur la nomination des juges là ont émaillé les années Trudeau-Justin. La libéraliste qu'on utilisait pour vérifier si le juge ou le candidat à la magistrature était bien libéral, les interventions politiques. On pourrait même remonter plus loin, là, le rapatriement de la Constitution avec ce qu'a découvert Frédéric Bastien, l'historien, feu Frédéric Bastien, hein, où il disait qu'un juge avait donné des indications claires au gouvernement sur le moment où un jugement serait rendu sur le rapatriement de la Constitution. Puis évidemment, on pourrait parler aussi des commandites. Donc, Guillaume, on parle des juges aujourd'hui aussi parce qu'on s'est posé, parce que j'ai un peu participé à cette démarche, du moins au début. Est-ce que les juges nommés par Trudeau, Justin, sont trudeauistes dans leur jugement? Puis si tu rends ton rapport qui va prendre la forme d'un livre là, dans les prochains jours.
Oui, effectivement, je viens juste de publier La pensée des Trudeau, le Québec et le pouvoir judiciaire, un livre qui répond précisément à cette question et qui répond de manière scientifique. C'est-à-dire qu'on a défini la pensée de Trudeau, je suis pas le premier, hein. Je me base sur les travaux de Frédéric Boily, Charles-Philippe Courtois, il y avait aussi eu un collectif de Jean Leclerc et Noura Karasivian qui avait été très bon, qui avait été vraiment un ouvrage très, très volumineux sur la pensée constitutionnelle et politique de Pierre-Éliott Trudeau. Donc, je ramasse tout ça, je synthétise sa pensée, hein, donc multiculturalisme, bilinguisme, droits individuels, charte des droits, État fédéral fort, pouvoir judiciaire fort, différents éléments comme ça. Puis ensuite, j'analyse vraiment les jugements rédigés, donc pas seulement signés, rédigés par des juges nommés par Justin Trudeau à la Cour d'appel du Québec ou à la Cour suprême du Canada et qui portent sur des questions qui sont au cœur de la pensée des Trudeau, père et fils. Et ça m'a amené à trouver 29 jugements. Donc, quand on va vraiment sur les jugements de fond, là, pas des jugements interlocutoires, donc 29 jugements. Et pour répondre à ta question de manière très précise, oui, en général, les juges nommés par Trudeau rendent des jugements conformes à sa pensée à hauteur de 58,6% des jugements qui sont conformes
qui
à sa pensée.
C'est que tu réussis à quantifier, là, c'est des méthodes donc scientifiques, mais même quantitatives.
Oui, exactement. Puis il y a même toute une partie méthodologique au livre où on explique vraiment exactement en détail, de sorte qu'un autre chercheur pourrait reprendre notre méthode, l'appliquer et arriver au même résultat. Mm-hmm. Donc, ce qui est le propre de la méthode scientifique. Donc, 58,6% des jugements rédigés par des juges nommés par Justin Trudeau, Cour d'appel, Cour suprême du Canada, sont conformes à sa pensée. 27,6% sont non conformes et 13,8% sont neutres. Donc, la tendance est assez forte. Là, même si on jouait un petit peu sur les critères ou on interprétait tel ou tel point différemment, on n'arriverait pas à des résultats très différents. Donc, comme le dit Daniel Turp dans la préface, là, il défie tout constitutionnaliste de faire une démonstration contraire parce que c'est très, très évident. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ensuite, il y a une nuance importante. C'est que la tendance est très forte en matière de droits individuels. Donc, on a inclus là-dedans les questions des chartes des droits, mais aussi la charte de la langue française parce qu'il y avait une opposition là, de Trudeau père et dans une moindre mesure de Trudeau fils à la loi 101. Donc, on a inclus les droits linguistiques et là, c'est 70% de jugements conformes à la pensée des Trudeau compte à peine 17,6 qui sont non conformes et 11,8 qui sont neutres. Donc, la tendance est très forte au niveau des chartes des droits. Puis ça confirme un petit peu ce qu'on avait vu parce que dans un des scandales de l'ère Trudeau en matière de nomination des juges, c'est que M. Trudeau est intervenu pour bloquer un candidat qui était recommandé par Mme Wilson-Raybould, donc sa procureure
générale.
Oui, c'est générale.
Ça. Le comité l'avait choisi. Il s'appelle Glenn Joyal. Il y a Patrick Taillon qui nous a déjà parlé de cette affaire-là. Glenn Joyal, donc, était recommandé, puis finalement, le cabinet Trudeau a dit non, pas lui, on veut Sheila Martin, c'est elle qui a écrit le fameux jugement controversé qui comprend là, l'expression « personne avec un pénis » dont on a tant parlé, pas un
personne
pénis,
un vagin.
La semaine passée.
Ouais, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette affaire-là, c'était vraiment pour des raisons politiques, idéologiques que M. Trudeau est intervenu. C'est-à-dire, il dit « ce candidat-là n'est pas assez favorable à une approche libérale en matière de charte des droits. Mm-hmm. » Parce qu'à la limite, ça pourrait être que du patronage. À la Cour supérieure, à la Cour d'appel, c'est évidemment des postes extrêmement payants, les postes de juge. Donc, ça pourrait ne pas être idéologique, être juste du bon vieux patronage. Ce sont des postes payants, on les donne à des donateurs libéraux, comme l'avait démontré l'enquête du National Post. Donc, ça aurait pu être que ça, ce qui aurait été déjà évidemment très scandaleux. Mais là, avec notre étude, on démontre que ce n'est pas que ça. Et on avait cet exemple-là où, effectivement, pour des raisons idéologiques, M. Trudeau est intervenu. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas d'exemple équivalent en matière de centralisation. Donc, on n'avait pas un cas où M. Trudeau bloque la nomination d'un juge trop favorable à l'autonomie provinciale.
Oui, c'est ça.
Et on n'avait pas ça. Donc, notre hypothèse, c'était de dire probablement qu'il y a une influence idéologique davantage en matière de charte qu'en matière de partage des compétences. Et c'est effectivement ça qu'on retrouve. Donc, autant je vous citais les chiffres tantôt en matière de droits individuels, il y a clairement une tendance des juges nommés par Justin Trudeau à rendre des jugements conformes à sa pensée. Beaucoup moins en matière de partage des compétences, où là, on a trouvé 42,9% de jugements conformes, 50% de non conformes. Alors là, on n'est pas du tout dans la conformité, on est plutôt à une espèce de deux tendances presque aussi fortes. Là.
Donc ça, faut vraiment insister là-dessus. Là. Ouais. Tu sépares dans ton étude les droits et libertés et les jugements sur le partage des compétences. Donc, qui fait quoi dans la fédération? Et là, je me suis posé la question, on se souvient de l'expression de Maurice Duplessis, la Cour suprême penche toujours du même bord, et ça, c'est bien avant qu'il y ait une charte des droits, même une déclaration des droits au Canada. Donc, ça infirme d'une certaine façon ton enquête, ça infirme la fameuse phrase de Duplessis.
Dans une certaine mesure, oui, effectivement, parce que vous avez raison, l'ère Duplessis, c'est avant les Chartes des droits. Donc, quand Duplessis parlait de ça, il parlait beaucoup du partage des compétences, mais pas nécessairement seulement. Il pouvait avoir des fois des questions de droit administratif ou autre, là, où le Québec pouvait se retrouver devant la Cour suprême, bon, et tout. Mais effectivement, c'était beaucoup une question de partage des compétences. Ça demeure plutôt vrai, je pense, à l'époque. Je pense que Eugénie Brouillet a bien démontré que quand le tribunal de dernière instance, ce n'était plus le conseil privé, le comité judiciaire du conseil privé à Londres, mais la Cour suprême du Canada nommé par le fédéral, il y a eu une jurisprudence plus centralisatrice. Donc, je pense que Duplessis à l'époque a eu cette phrase-là, puis ça pouvait se justifier. Mais effectivement, ce qu'on remarque 40, 50, 60 ans plus tard, c'est ça a changé. Donc, il semble que évidemment, c'est d'une période très courte, depuis 2015 à 2023, au moment où s'arrête ma recherche. Donc, ça reste limité. Même l'échantillon en matière de partage des compétences est moins grand. C'est que c'est 14 juges. Donc, ça demanderait peut-être d'aller plus loin, mais n'empêche effectivement qu'on aurait pu penser que, comme Trudeau a clairement une approche très centralisatrice, on l'a vu encore récemment dans le dossier de l'immigration, ben ça aurait pu se refléter dans la nomination des juges. Ça semble pas être le cas.
Mm-hmm. Est-ce que c'est l'échantillon qui est pas assez grand? Parce que c'est une des choses qu'on pourrait peut-être reprocher à l'étude.
Ben, au niveau de, c'est-à-dire que 29 jugements, c'est quand même pas rien. Donc, c'est une part substantielle de la jurisprudence. Évidemment, dans un monde idéal, on irait aussi, dans la Cour supérieure, où là, on aurait des dizaines et des dizaines de jugements. On irait, on ferait des comparaisons avec les juges nommés par Harper et tout. Donc, on pourrait évidemment prendre la métaux, et vraiment l'étendre sur beaucoup plus de jugements. Mais ça demanderait, ça a été,
des années
ces 29
de travail,
jugements-là, hein? Ça a été 2-3 ans de travail avec toute une équipe. Donc, ça demanderait, avec un gros budget, on pourrait le faire. Particulièrement pour la Cour supérieure, où il y a beaucoup de jugements rendus par des juges nommés par Justin Trudeau, ce serait intéressant. Mais disons que 29 jugements, Cour d'appel, Cour suprême, c'est assez substantiel. Mais là où vous avez raison, c'est que quand on tombe sur un sous-échantillon, encore, sur les droits individuels, c'est encore pas pire, 17, partage des compétences, pouvoir constituant, 14. Mais quand on tombe dans les sous-échantillons, par exemple, en matière de liberté de religion, je pense que j'ai 4 jugements. Donc là, ça devient effectivement moins... il y en a trop peu pour dire que c'est vraiment une tendance. Mais je pense qu'à 29 jugements, ou à 17, ou à 14... on a quand même une tendance, considérant qu'il n'y a pas des milliers de jugements rendus par la Cour d'appel du Québec, par la Cour suprême du Canada, là, sur ces questions-là, et même de manière générale chaque année. Donc, il faut le voir comme ça.
Dans l'introduction, à un moment donné, tu cites quelqu'un, Guillaume, qui dit que, de toute manière, toutes les facultés de droit sont trudeauistes aujourd'hui parce qu'on insiste beaucoup sur... l'enseignement du droit est trudeauiste, on insiste sur la charte, la jurisprudence liée à la charte. Est-ce que c'est pas évident que presque tous les juristes aujourd'hui sont trudeauistes? Comme professeur de droit, qu'est-ce que tu réponds?
C'est une exception. Je pense que c'est Charles-Philippe Courtois qui dit que les milieux juridiques, en général, sont assez trudeauistes. C'est son étude date du milieu, début des années 2010, donc avant même la prise du pouvoir par Justin Trudeau. Fait qu'on peut penser que s'il y avait cette tendance-là, ça a pu s'accentuer. Donc, il peut y avoir de ça, mais vraiment, pour le démontrer ou l'infirmer, il faudrait que je pousse l'étude et que je compare mes jugements des juges nommés par Trudeau à des jugements de juges nommés par Harper. Et même idéalement, en comparant le cadre théorique, la pensée de Trudeau et la pensée conservatrice. Et là, on pourrait vraiment voir, est-ce qu'il existe une autre tendance? Donc, ce serait le cas. Mais sinon, on voit quand même ici que quand même 27%, tout près de 30%, qui sont pas conformes à la pensée des Trudeau. C'est quand même pas rien. Et tout ça chez des juges nommés par Trudeau lui-même. On a vu qu'en matière de partage des compétences, il n'y a pas cette pensée trudeauiste centralisatrice. Et ça, c'est tout ça dans l'échantillon des jugements des juges nommés par Trudeau. Donc, si on allait voir la Cour du Québec avec des juges de nomination québécoise, ben possiblement qu'il y aurait encore là, en tout cas c'est mon hypothèse, qu'il y aurait possiblement encore moins de jugements conformes à la pensée des Trudeau. C'est à ce moment-là qu'on pourrait peut-être répondre à votre question de manière encore plus précise si on avait cet échantillon-là aussi du côté de la Cour du Québec. C'est sûr que la pensée trudeauiste, très favorable à un pouvoir judiciaire fort, elle est très présente dans la communauté juridique, parce que pour la communauté juridique, si c'est le pouvoir judiciaire qui a le pouvoir, ben la communauté juridique devient encore plus influente. Donc, les quelques milliers d'avocats, on a beaucoup plus d'influence que le simple électeur quand c'est la Cour suprême qui décide, alors que quand c'est le Parlement qui décide, le vote d'un avocat ou d'un non-avocat a le même poids. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir effectivement dans les facultés de droit un certain point de vue favorable aux chartes des droits pour le point de vue un peu, la philosophie libérale est souvent celle un peu des surreprésentée dans les élites, moins représentée au niveau de la population, moins fortunée. Donc, pour toutes sortes de raisons sociologiques, ce que vous dites est probablement vrai, mais c'est loin d'être hégémonique pour autant, là.
Dans la partie où on définit le trudeauisme, tu soulignes les différences entre Trudeau père et Trudeau fils. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a des petites nuances quand même, même si le corps de doctrine, si on peut dire, est vraiment le même.
Ouais, effectivement. Donc, c'est essentiellement de même, multiculturalisme, bilinguisme, droits individuels, État fédéral, pouvoir judiciaire fort. Les nuances, au niveau du multiculturalisme, le fils insiste plus sur le religieux. Donc, à l'époque du père, le multiculturalisme, c'était beaucoup l'ethnique, les langues ethniques, les costumes traditionnels, des choses comme ça. Pour le fils, c'est beaucoup autour de la religion, par réaction à la laïcité québécoise, plus affirmée dans les années 2010 que dans les années 1960-70. Donc, je pense qu'il y a ça. Au niveau du bilinguisme, Trudeau, à un moment donné, était beaucoup, il a adopté une loi sur Trudeau fils sur les langues autochtones, donc il était un peu plus pas au bilinguisme aussi peut-être traditionnel que son père, donc il est allé à un moment donné un petit peu sur les, il a fait des choses pour les langues autochtones, puis ensuite, à un moment donné, il a ouvert la porte dans un livre blanc à peut-être en faire plus pour le français au Québec, pas seulement pour l'anglais au Québec, mais finalement sa loi qu'il a adoptée est va pas très loin dans cette direction-là, son plan d'action non plus, donc il y a pas une grosse différence et sinon c'est vraiment les ressemblances. Même au niveau des droits individuels, bon, globalement, les deux sont favorables aux droits individuels, aux chartes des droits, mais même quand on va dans le détail de dire, OK, ils sont d'accord avec les chartes des droits, sauf dans certains moments où là, ils deviennent autoritaires. Octobre 70 et la manifestation devant le Parlement à Ottawa. Donc, quand leurs adversaires politiques deviennent plus musclés dans leurs actions, voire carrément des actions violentes, ben là, eux deviennent autoritaires avec la loi sur les mesures de guerre, la loi sur les mesures d'urgence qui est la loi qui succède. Donc, ça aussi, l'analogie est intéressante à ce niveau-là aussi, mais sinon, c'est vraiment les continuités qui sont plus fortes que les changements.
Et Guillaume, tu as été l'avocat du mouvement laïque pour défendre la loi 21. Quand même, on a parlé, plusieurs d'entre nous, d'une victoire de la laïcité en cour d'appel. Est-ce que ça démontre, au fond, que les juges fédéraux peuvent donner raison au Québec à certains moments?
En fait, c'est intéressant parce que les trois juges de la Cour d'appel qui ont rendu le jugement sur la loi 21 et pour la loi 21, quelque part, n'étaient pas nommés par Justin Trudeau. Ah. Alors, ça invalide aucunement la démonstration du livre. Au contraire, si ça se trouve, ça l'alimente. En tout cas, ça laisse savoir que, possiblement, que si on allait voir les jugements des juges qui n'ont pas été nommés par Justin Trudeau, on verrait une tendance différente. Et à la Cour suprême, par contre, il y en a 6 des 9 juges qui ont été nommés par Justin Trudeau. Alors ça, c'est évidemment une question que soulève mon livre, là, à savoir est-ce que il devrait pas y avoir plus d'influence du Québec sur la nomination des juges à la Cour suprême?
Ah oui.
C'est une question qui se pose là.
Oui, parce que quelqu'un, un très très bon juriste qui serait nationaliste, évidemment indépendantiste, pour une laïcité à la québécoise. Et peut-être aussi pour une souveraineté parlementaire, il y a peu de chances d'aboutir dans un tribunal nommé par le fédéral.
Effectivement, l'étude du National Post qui regardait si les juges nommés par le fédéral avaient fait des dons à des partis politiques avait trouvé 0% de candidats nommés juges qui avaient fait un don au Bloc québécois. Alors que même pour le Parti vert, il y en avait quand même quelques-uns. Là. Pour le NPD, bon, il y en avait quelques-uns, les conservateurs plus et les libéraux encore plus, mais le Bloc, zéro. Zéro. Donc, c'était statistiquement, c'était presque aberrant. Donc, à moins de penser que les souverainistes sont complètement des juristes nuls, évidemment, ça s'explique pas autrement que par un profilage idéologique. Je pense que c'est la seule explication possible.
Ça contredit, en tout cas, la volonté affichée du fédéral d'avoir de la diversité au sein des tribunaux, parce que là, on pourrait dire la diversité québécoise, elle ne s'y retrouve pas. Les catégories que j'ai citées là, on peut dire que ça représente une bonne partie, une majorité claire, mettons, des Québécois.
Effectivement, donc il insiste beaucoup sur la diversité en thème homme-femme, autochtones, personnes de couleur de différentes religions ou quoi. Je pense que c'est surtout cette diversité-là qui est valorisée par l'État fédéral. Ensuite, les Québécois, évidemment, sont représentés parce qu'ils sont 3 sur 9, donc il y a même une surreprésentation du Québec. Mais effectivement, ensuite, dans les profils idéologiques, il peut y avoir certaines tendances, hein. Je pense pas que la juge Côté, c'est la même chose que le juge Cassirère. Donc, on pourrait voir qu'il y a certaines diversités idéologiques, mais effectivement, c'est, je pense, fortement déplorable qu'aucun souverainiste, très peu de nationalistes, disons, affirmés, de gens qui défendent la laïcité à la québécoise, pourraient se retrouver à la Cour suprême. Ça avait été avoué à une époque par le juge en chef du Québec, oui. Le juge Robert. Ça a été prouvé à nouveau il y a récemment par la National Post. Puis ça, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment extrêmement déplorable. C'est de la discrimination systémique pour le coup, mais alors là, vraiment,
cette vraiment. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume. Je rappelle le nom, le titre de l'étude, La pensée des Trudeau, le Québec et le pouvoir judiciaire. Donc, c'est une analyse réaliste et politique de jugements rendus par des juges nommés par le gouvernement Trudeau. Et c'est à l'Institut de recherche sur le Québec. Et c'est aussi appuyé par le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci infiniment, Guillaume.
Merci, au plaisir.
On dit souvent que les murs ont des oreilles.
Là-haut sur la colline.
Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
Et bonjour Geneviève et Rémi.
Bonjour.
Bonjour Antoine.
Geneviève Lajoie est, je le rappelle, correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le bureau du Journal de Québec et de Montréal. Rémi, c'est le chef de ce même dynamique bureau, qui n'a plus de bureau, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Parlons d'Yves Michaud. Yves Michaud qui est mort, mais c'est le retour à l'affaire Michaud. C'est cette affaire qui l'a tant meurtri, ce pauvre homme. Gracieuseté du premier ministre Legault. Geneviève, tu as vécu ça en direct aujourd'hui dans les couloirs du Parlement. Raconte-nous comment ça s'est produit. On est jeudi aujourd'hui.
Oui, on a su la nouvelle au début de la semaine. Tout le monde a rendu hommage. Tous les partis politiques ont rendu hommage à Monsieur Michaud, qui est un ancien journaliste, un ancien politicien aussi, mais qui a vécu une chose un peu particulière, hein. Il est le seul au Québec à avoir été blâmé personnellement par l'Assemblée nationale le 14 décembre 2000. Un blâme donc qu'il avait, comme tu l'as dit, tu l'as bien expliqué, meurtri toute sa vie, il s'est souvenu de ça. Il a voulu faire changer les choses à plusieurs reprises, il a voulu faire changer ça, mais sans succès. Il y a des gens qui étaient alors en poste comme député, comme ministre, qui avaient voté à cette époque-là pour blâmer Monsieur Michaud, qui se sont excusés dans les dernières années. On parle de Pauline Marois, on parle de l'ancienne ministre péquiste Louise Beaudoin, on peut même parler du libéral Jean-Marc Fournier, mais il y en a qui ne se sont pas excusés. C'est le cas, par exemple, du premier ministre François Legault. Et aujourd'hui, donc, il y a le Parti québécois qui est revenu à la charge pour dire, ben, écoutez, peut-être c'est le moment de lui rendre des excuses posthumes. On a questionné le premier ministre dans les corridors de l'Assemblée nationale lorsqu'il sortait de son bureau. Visiblement, il voulait pas nous parler. Quand il sort juste quelques minutes avant la période de questions, c'est qu'en fait, il n'y a pas le temps, donc il va passer très rapidement. On l'a suivi dans le corridor, on lui a posé des questions. Est-ce que c'est le moment de faire des excuses posthumes à Monsieur Michaud? Et ce qu'il a dit était assez surprenant. En fait, il a dit qu'il vivait très bien avec son vote. Et donc, il est rentré en chambre. Ça nous a surpris.
Et c'est le dernier parlementaire,
Jean-François
là-dessus.
Simard, qui était encore en poste et qui, lui aussi, était là à ce moment-là.
C'est vrai,
Exactement,
autre
mais ils sont deux qui sont encore en poste à l'heure actuelle et qui ont voté cette journée-là, donc le 14 décembre 2000. Monsieur Legault est venu.
Simard, est-ce qu'il s'est excusé?
Je l'ai pas entendu aujourd'hui. Je sais pas s'il a été croisé par des journalistes dans la journée. Le premier ministre est revenu s'expliquer ensuite, après la période de questions, pour dire que il estimait encore aujourd'hui que Monsieur Michaud avait tenu à l'époque des propos qui étaient inacceptables contre la communauté juive. Et puis après ça, donc, il est retourné à son bureau. Donc, ça remet, c'est ça, ça nous refait parler de cette histoire-là. qui avait tant fait jaser là, à l'époque et qui avait divisé les troupes péquistes, on se souvient, sous la gouverne de Lucien Bouchard.
Ça a même conduit au départ de Lucien Bouchard. Rémi, est-ce que c'est pas une autre espèce de distraction, ça, auto-infligée par M. Legault? Puis pourquoi il fait ça, selon toi?
Première partie de réponse, donc à ta première partie de question, oui, c'est une erreur de M. Legault. Je vois vraiment aucun avantage à faire ça, au contraire. Mais premièrement, là, dans la stratégie de communication, comme Geneviève l'a décrit, quand M. Legault marche dans le corridor, c'est jamais une bonne idée de lancer quelque chose à la volée qui va susciter comme une controverse ou des fortes réactions sans prendre le temps de s'expliquer. Donc là, en disant « je vis très bien avec mon vote », on se demandait « ok, pourquoi, pour quelle raison ?» Il n'y avait aucune explication. Et après ça, quand il revient, bon, on dit que les propos à l'époque étaient inacceptables. Il y a deux choses. Moi, j'ai beau relire attentivement tous les propos de M. Michaud de l'époque. Je trouve qu'on peut pas conclure qu'il s'agissait de propos antisémites. Et il aurait fallu donc qu'il soit donc au moins appelé à s'expliquer. Ça n'a pas de bon sens de comme condamner un citoyen avec un vote comme ça, avec un tel poids de l'Assemblée nationale. Il aurait fallu que ce soit sans équivoque. En fait, c'est ça aussi l'affaire. C'est que quand tu dis les propos, tu dis ben là, peut-être qu'il y a comme une ligne, mais c'est pas assez clair pour dire que vraiment il avait tenu des propos antisémites. Donc à ce moment-là, moi je trouve que M. Legault aurait pu tout simplement aussi dire le Parti québécois dit qu'il va revenir avec une proposition de motion, on verra. Alors, c'était pas moi je pense que c'était pas habile aujourd'hui au lendemain du décès d'aller retaper sur ce clou-là et en plus sur le fond, je trouve qu'il a pas raison. Fait que
ouais.
C'est vraiment comme mauvais.
Oui, en plus, M. Legault, quand il s'est expliqué, qu'il nous a dit que c'était des propos inacceptables, il fait référence à des propos, et c'est lui-même qui l'a dit, tenus à la radio à l'époque. Mais lorsqu'on...
Oui, il dit « je les ai entendus ».
Sauf que lorsqu'on lit la motion qui a été adoptée, la motion de blâme, il s'agit bel et bien d'une référence à des propos tenus par Yves Michaud la veille du vote, c'est-à-dire le 13 décembre 2000, lorsqu'il était de passage aux États généraux sur le français à Montréal. Et donc, c'est ce qui est écrit dans la motion. Et puis, c'est une motion qui a été adoptée là en 3 secondes. Là. On se comprend, là, sans débat, tout le monde s'est levé pour voter, puis bon, merci, bonsoir. Il n'y avait pas eu de débat là-dessus, il n'y avait rien eu, ça s'est fait très rapidement. Donc c'est ça. Il remet aussi ça fait refaire surface aussi. Bon, c'est quoi le fil des événements à cette époque-là? Parce que M. Michaud avait tenu certains propos à la radio, il y en a tenu d'autres aux États généraux, mais ce qui est bel et bien inscrit dans la motion à l'époque, c'est ce qu'il a dit aux États généraux sur le français. Là.
C'est comme si ça ravivait cette histoire-là qui a tellement fait jaser, il y a même... Il y a eu un livre de Gaston Deschênes là-dessus, Chronique d'une exécution parlementaire, où il cite notamment Robert Liebman, qui a été chef du Parti Égalité, qui dit « Depuis le déclenchement des événements, ça c'est en 2001 que Robert Liebman dit ça, la parole de M. Michaud a été déformée de façon incroyable. Les gens l'accusent de minimiser l'Holocauste alors qu'il n'a jamais fait ça. On l'accuse aussi d'être antisémite. Moi, pas. Je pense pas qu'il l'est. » C'est quand même quelque chose. Alors, on continue. Geneviève, donc, tu as écrit sur le sondage Léger qui t'en fait parler cette semaine. Ça a été vraiment une semaine difficile pour la CAQ encore.
Oui, c'est une autre semaine difficile pour la CAQ après le budget la semaine dernière et le sondage, justement, demandait aux Québécois ce qu'ils pensaient du budget. Et les Québécois sont pas contents du budget. Ça passe pas. Ça passe pas dans l'opinion publique. Le 11 milliards de déficit, un déficit record, faut le rappeler. Mais de toute façon, une phrase qui a été très intéressante dit par le sondeur Christian Bourque, c'est que peu importe ce que va faire de toute façon à partir de maintenant M. Legault, à cause des controverses, à cause de l'usure du pouvoir, peu importe ce qu'il fait, en fait, même si ça peut paraître positif, c'est perçu négativement par la population en ce moment.
C'est terrible, hein?
Ce qui m'a fait écrire, d'ailleurs, un mot que tu as relevé, il a la poisse en ce moment, M. Legault. Alors, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est mal perçu, mal interprété. Donc, ça risque de continuer, je pense, dans les prochaines semaines. On verra si... Et Monsieur Legault, cette semaine même, on lui a posé la question, est-ce que vous êtes en réflexion sur votre avenir? Est-ce que des sondages comme ça, ça vous fait réfléchir? Continue de dire que non, qu'il sera là donc en 2026 aux prochaines élections. Mais c'est sûr que s'il réfléchit sérieusement, bon, peut-être qu'il nous le dira pas de toute façon, là, mais il va falloir qu'il se décide bientôt.
On l'a interviewé, nous trois, pendant la campagne, et il nous avait dit qu'il y avait deux conditions. Si les Québécois veulent de moi et si j'ai la santé. Il me semble que la première condition n'est plus remplie, en tout cas.
De moins en moins.
Rémi, là-dessus?
Ben c'est ça, de moins en moins. Écoute, c'est ça, il y a quelque chose de cruel dans ça, parce que on peut pas dire objectivement que le gouvernement Legault fait rien de bon, mais
c'est ça.
En tout cas, on peut pas dire non plus qu'il l'essaye pas, c'est-à-dire que bon, pour la santé, l'éducation, des postes importants, il y a des réformes en cours, peut-être que les réformes vont apporter des fruits, mais ça prend du temps, et là, ben, pour l'instant, M. Legault est pas habile, on le voit, on parlait de sa sortie aujourd'hui, mais ça, je dis, c'est un exemple parmi plusieurs depuis le début de l'année encore, et après un automne épouvantable, là, avec le troisième lien, et les revirements, donc il y a... Je pense que les gens ont comme perdu confiance. Les gens ont l'impression que M. Legault dit un peu n'importe quoi pour essayer de garder la faveur populaire. Et ça fait en sorte d'amener le contraire, tu sais, parce que les gens donc croient pas là, qu'il y a une sincérité là-dedans et des convictions. Donc, c'est ça. C'est un mouvement qui est difficile à renverser. Donc, on verra la suite des choses, mais il y a des éléments quand même importants qui s'en viennent d'ici la fin de la session parlementaire. Monsieur Fitzgibbon va présenter sa vision pour la consommation d'énergie. Geneviève Guilbeault, son projet de loi pour l'agence de transport. Donc, des choses qui s'en viennent, mais bon, en même temps, est-ce qu'il y aura vraiment suffisamment là-dedans pour séduire les Québécois? Tu sais, je suis pas sûr.
Ils ont la poisse!
Ouais.
Geneviève, un mot, puis après ça, on va aller au pouce en haut et au pouce en bas de Rémi en fin de semaine. Geneviève.
Oui, dans le cas de la CAQ, tu sais, la CAQ, en tout cas, plusieurs le disent, le gouvernement de la CAQ, c'est le gouvernement d'un seul homme. La CAQ, c'est François Legault. Donc, François Legault ne performe pas bien, quand les gens ne sont pas contents de François Legault, c'est toute la CAQ qui est influencée. Là.
Et c'était l'inverse quand il était porté au nu, hein?
Donc, peu importe ce que les ministres vont présenter de positif, ce qu'on va se souvenir, c'est de la déclaration de François Legault, de la telle déclaration controversée, beaucoup plus que ce que ces ministres présentent.
Rémi, pouce en bas, pouce en haut, ben, écoute, en fin de semaine?
Benoît Charrette, il s'est fait prendre parce qu'il avait déclaré que l'usine de Northvolt, ça aiderait le Québec à atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre, et puis le Devoir a fait un exercice très intéressant. Ils ont demandé, le ministère de l'Environnement avait rien pour prouver ça, donc M. Charrette était obligé de reculer puis de dire que dans le fond, il n'y a aucune idée. Donc ça, c'est, on peut pas dire que c'est très reluisant pour M. Charrette. Pas une bonne semaine pour lui.
Un pouce en bas.
Ouais, exactement. Parmi les gens pour qui je pense qu'il y a des bons coups cette semaine, Bernard Drinville, moi, écoute, le tableau de bord en éducation, je pense que c'est un plus, bien qu'on a vu jeudi dans les médias le fait que le tableau de bord en santé comportait là, quelques anomalies. Mais quand même, tu sais, sur le fond, c'est un plus que le ministère de l'Éducation ait davantage de données provenant des écoles, et ça peut permettre d'apporter des améliorations. Et au-delà de ça aussi, moi, je suis pas contre l'intention annoncée de Bernard Drinville de créer peut-être un palmarès des écoles. Moi, je suis pas contre ça. Au contraire, je trouve que tout le monde, tu sais, fait plus d'efforts pour s'améliorer quand il est comparé avec des semblables.
Et de toute façon, les parents s'en font un palmarès parce qu'ils en discutent. Tu sais quoi, t'as ta bonne école? Est-ce qu'il y a une meilleure école?
Oui, exactement. Fait que moi, écoute, je trouve que ça, c'est bien. Donc, Bernard Drinville, je trouve relativement bonne semaine de son côté, là, en raison de ça.
OK. Moi, je mets un pouce en bas à André A. Morin, aujourd'hui, du Parti libéral, qui a carrément remis en question le vote de son parti sur la fameuse motion, là, sur cette expression « personne avec un vagin » qui a été utilisée par la Cour suprême. J'ai trouvé que c'était incroyable. Il a dit « c'est pas une motion de la CAQ, oui, mais il a voté pour ». C'est surprenant. Alors, Rémi, Geneviève, à moins que Geneviève ait un petit mot, on va se laisser là-dessus. Geneviève?
Bien sûr, Monsieur Morin, justement. Oui. Donc, on a compris qu'il avait lu en diagonale. Hein, oui. Il a bien dit en diagonale.
Le jugement de la Cour suprême.
Le jugement de la Cour suprême. Et il reproche maintenant à la CAQ, aux ministres, de ne pas avoir fait leur job avant de leur présenter une motion.
Incroyable. C'est un vrai pouce en bas. On se laisse là-dessus sur du négativisme, désolé. Et merci beaucoup et on se reparle très bientôt.
Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.